Le taxi vient de la déposer le long du trottoir et s'enfuit dans le tumulte des véhicules qui gravitent autour des satellites. Elle le regarde disparaître au loin. Son énorme baluchon vert déposé à ses pieds pèse presque plus lourd qu'elle. Elle le soulève, grimace et le maintient sur ses épaules. Elle franchit les portes automatiques du terminal 1, traverse le hall et descend quelques marches. À sa droite, un autre escalier s'élève en spirale. Malgré le fardeau qui pèse sur son dos, elle grimpe les marches et s'engage d'un pas déterminé dans le couloir. Elle s'immobilise le long de la devanture d'un bar baigné d'une lumière orangée et regarde au travers de la vitre. Accoudée au comptoir en formica, une dizaine d'hommes sirotent leur bière en commentant haut et fort les résultats des matchs qui défilent sur l'écran d'une télévision accrochée au-dessus de leur tête. Poussant la porte en bois au large oculus, elle entre, regarde bien au-delà des tables rouges et vertes. Elle le voit, assis au fond contre la paroi de verre qui surplombe le tarmac. Un journal plié sur la table, il a posé son menton sur sa main droite et laisse errer la gauche qui dessine au crayon un visage sur la nappe en papier. Ses yeux, qu'elle ne peut encore voir, sont perdus dans le vague d'un bitume strié de bandes jaunes où les avions roulent au pas, allant chercher leur envol un peu plus loin. Elle hésite, emprunte la travée de droite qui la conduira à lui sans qu'il l'aperçoive. Elle dépasse l'armoire réfrigérante qui ronronne, s'approche d'un pas vif qu'elle sait garder feutré. Arrivée à sa hauteur, elle pose une main sur les cheveux du jeune homme qui l'attend et les ébouriffe tendrement. Sur le papier nid d'abeille, c'est son portrait qu'il esquissait.
« Je t'ai fait attendre ?» demande-t-elle.
« Non, tu es presque à l'heure. C'est maintenant que tu vas me faire attendre. Tu es là depuis longtemps ?»«
J'en ai pas la moindre idée.
Qu'est-ce que tu es jolie. Assieds-toi. » Elle sourit et regarde sa montre.
« Je décolle dans une heure. »
Je vais tout faire pour que tu le rates, pour que tu ne le prennes jamais.
Alors, je décolle d'ici dans 2 minutes, dit-elle en s'asseyant.
Bon, c'est promis, j'arrête. Je t'ai apporté quelque chose. Il dépose une pochette en plastique noir qu'il pousse vers elle du bout de son index. Elle incline la tête, sa façon à elle de dire « Qu'est-ce que c'est ?» Et comme il comprend la moindre expression de son visage, le seul mouvement de ses yeux répond « Ouvre, tu verras. » C'est un petit album de photos. Il commence à tourner les pages. Sur la première, en noir et blanc, 2 bébés de 2 ans se regardent debout, face à face. Ils se tiennent mutuellement par les épaules. « C'est la plus vieille photo de nous deux que j'ai pu retrouver, » dit-il. Il tourne un feuillet, poursuivant son commentaire. « Celle-ci, c'est toi et moi. Un Noël dont j'ai oublié la date, mais nous n'avions pas encore 10 ans. Je crois que c'est l'année où je t'ai donné ma médaille de baptême. » Suzanne plonge la main entre ses seins pour en tirer la petite chaîne et son pendentif à l'effigie de Sainte Thérèse, qui ne la quitte jamais. Quelques pages encore, elle l'interrompt et décrit à son tour. « Celle-ci, c'est nos 13 ans. C'est dans le jardin chez tes parents. Je viens de t'embrasser. C'est notre premier baiser. Tu m'as dit « C'est dégueulasse » quand j'ai voulu mettre ma langue. Et celle-ci, c'est 2 ans après. Là, c'est moi qui ai trouvé ça dégoûtant quand tu as voulu qu'on dorme ensemble. » Au verso, Philippe reprend la parole et pointe une autre image. Et 1 an plus tard, à la fin de cette soirée, si je m'en souviens bien, tu ne trouvais plus ça dégoûtant du tout. Chaque feuillet de celluloïde marque un temps de leur enfance complice. Elle l'arrête. Tu as sauté 6 mois. Il n'y a pas de photo de l'enterrement de mes parents. Pourtant, je crois que c'est là où je t'ai trouvé le plus sexy. Arrête avec cet humour débile, Suzanne. Je ne plaisantais pas. C'est la première fois que je t'ai senti plus fort que moi. Ça me rassurait vraiment. Tu sais, je n'oublierai jamais...
Arrête avec ça.
Que c'est toi qui es allé rechercher l'alliance de maman pendant la veillée. Bon, peut-on changer de sujet? Je crois que c'est toi qui me rappelles tous les ans à leur mémoire. Tu as toujours été tellement attentionné, présent et prévenant chaque année pendant la semaine anniversaire de l'accident. On passe à autre chose maintenant. Allez, continue de nous faire vieillir, tourne les pages. Il la regarde, immobile. Il y a de l'ombre dans ses yeux. Elle lui adresse un sourire et reprend. Je savais que c'était égoïste de ma part de te laisser m'accompagner à cet avion. Suzanne, pourquoi fais-tu ça? Parce que ça, c'est aller au bout de mes rêves. Je ne veux pas finir comme mes parents, Philippe. Je les ai vus passer leur existence à payer des traites, et pourquoi? Pour finir tous les deux contre un arbre, dans la belle bagnole qu'ils venaient d'acheter? Toute leur vie a fait 2 secondes aux infos du soir,
que j'ai regardé sur la belle télé qui n'était même pas encore payée. Je ne juge rien ni personne, Philippe, mais moi, je veux autre chose et m'occuper des autres est une vraie raison de me sentir en vie. Il la regarde, perdu, admirant sa détermination. Depuis l'accident, elle n'est plus tout à fait la même. Comme si les années s'étaient bousculées aux portes des réveillons, telles des cartes à jouer que l'on jette par deux pour distribuer plus vite. Suzanne ne paraissait déjà plus ses 21 ans, sauf quand elle souriait, ce qui lui arrivait très souvent. Son cycle de junior college achevé et son diplôme d'Associate of Arts en poche, elle s'était engagée dans le Peace Corps, cette association humanitaire qui envoyait les jeunes porter assistance à l'étranger. Dans moins d'une heure, elle partira deux longues années durant pour le Honduras. À quelques milliers de kilomètres de New York, elle passera de l'autre côté du miroir du monde. Dans la baie de Puerto Castilla, comme dans celle de Puerto Cortés, ceux qui avaient décidé de dormir à la Belle Étoile y renoncèrent. Le vent s'était levé en fin d'après-midi et soufflait déjà fort. Ils ne s'alarmèrent pas. Ce n'était ni la première ni la dernière fois qu'une tempête tropicale s'annonçait. Le pays était habitué aux pluies fréquentes en cette saison. Le jour sembla se coucher plus tôt. Les oiseaux décampèrent à tire-d'aile, signe de mauvais augure. Vers minuit, le sable se souleva, formant un nuage à quelques centimètres du sol. Les vagues se mirent à gonfler très rapidement et déjà les cris que lançaient les uns et les autres pour que l'on renforce les amarres des bateaux ne s'entendaient plus. Au rythme des éclairs qui lacéraient le ciel, l'écume bouillonnante à l'aplomb des pontons les faisait vaciller dangereusement. Bousculées par la houle, les embarcations s'entrechoquaient dans les raclements de leurs bois. À 2h15, le cargo Sant'Andrea, long de 35 mètres, fut projeté contre les récifs et sombra en 8 minutes, son flanc déchiré sur toute la longueur. Au même moment, à El Galasson, le petit aéroport de la Ceiba, le DC-3 gris-argenté parqué devant un hangar décolla soudainement et atterrit aussitôt au pied de ce qui faisait office de tour de contrôle. Il n'y avait aucun pilote à bord. Les deux hélices se plièrent et l'empennage se brisa en deux. Quelques minutes plus tard, le camion-citerne se coucha sur le côté et commença à glisser. Une gerbe d'étincelles embrasa le carburant. Philippe posa sa main sur celle de Suzanne, la retourna et en caressa la paume.
Tu vas tellement me manquer, Suzanne.
Toi aussi, drôlement, tu sais.
Je suis fier de toi, même si je te déteste de me planter ici comme ça.
Arrête-toi là, on s'est promis qu'il n'y aurait pas de larmes.
Ne me demande pas l'impossible.
Penchés l'un sur l'autre, ils partageaient la tristesse d'une séparation et l'émotion heureuse d'une complicité de 19 ans, ce qui représentait presque toute leur existence.
Tu me donneras des nouvelles ? Demanda-t-il avec un air de petit garçon.
Non.
Tu vas m'écrire. Tu crois que je peux avoir une glace ?
Il se retourna et héla le serveur. Lorsque celui-ci s'approcha, il lui commanda deux boules vanille recouvertes de chocolat chaud, saupoudrées d'amandes effilées, le tout copieusement arrosé de caramel liquide. C'est dans cet ordonnancement précis qu'elle aimait ce dessert, de loin son favori. Suzanne le fixa droit dans les yeux.
Et toi ?
Moi, je t'écrirai dès que j'aurai ton adresse là-bas.
Non. Toi, tu as choisi ce que tu vas faire ?
Deux années à Cooper Union, l'école des beaux-arts de New York. Et puis je tenterai de faire carrière dans une grande agence de publicité.
Donc tu n'as pas changé d'avis ?
Remarque, c'est idiot ce que je dis. Tu ne changes jamais d'avis.
Parce que toi, il t'arrive d'en changer ?
Philippe, tu ne serais pas venu avec moi si je te l'avais proposé. Parce que ce n'est pas ta vie.
Et moi, je ne reste pas ici parce que ce n'est pas la mienne.
Alors arrête de faire cette tête. Suzanne léchait sa cuillère avec gourmandise. De temps à autre, elle la remplissait pour l'approcher de la bouche de Philippe, qui se laissait faire, docile. Elle gratta le fond du mazagran, cherchant à y collecter les dernières effiloches d'amandes collées aux parois de la coupe. La grande horloge accrochée au mur d'en face marquait les 5 heures de cet après-midi d'automne. S'ensuivit 1 minute d'un étrange silence. Elle décolla son nez, qu'elle avait écrasé sur la vitre, se pencha par-dessus la table pour passer ses deux bras autour du cou de Philippe et lui souffla au creux de l'oreille. « J'ai la trouille, tu sais. » Philippe la repoussa un peu pour mieux la regarder. «
Moi aussi. »